Le mal matériel, c'est vous êtes en train de reculer et vous êtes prudent. Vous êtes sorti, vous avez fait le tour de votre voiture, vous avez regardé s'il n'y avait pas des rochers, des plots, des enfants qui passent. Vous avez un radar de recul que vous regardez de manière scrupuleuse. Vous avez une voiture ultra moderne qui fait des bips dans tous les coins dès que quelqu'un se rapproche. Et puis là, vous avez, alors pour pas que ça soit trop dramatique, je sais pas, un chien arrive et vous l'écrasez. Il court, il arrive et alors que vous reculez, vous l'écrasez. C'est quand même pas la même chose que de voir le chien de sa voisine qui est pénible depuis des années, que vous détestez et qui vous déteste. Le chien s'est échappé, vous voyez le chien et vous accélérez et vous l'écrasez. Et c'est pas la même chose. Eh bien, le fait d'être de bonne foi et d'être sincère est en effet une excuse. Pourquoi ? Eh bien, parce que notre nature intelligente et volontaire ne fait le mal que lorsque, en conscience, on considère que c'est quelque chose de mauvais, qui fait souffrir et qui attriste. Qu'on en est conscient intellectuellement, ça s'appelle la pleine advertance. Sur une matière qui est grave ou légère, alors notre conscience nous donne ce constat, ce jugement intérieur, c'est grave, c'est léger. Vous voyez, par exemple, quelqu'un a raté une marche et se rattrape et vous vous moquez de lui. Mais par contre, quelqu'un a manqué un examen oral, a fini par bégayer et vous vous moquez de lui après, là c'est un péché mortel. Mais je ne l'ai pas tué. Oui, mais vous l'avez profondément humilié dans quelque chose de grave, un examen, un diplôme à obtenir. C'est grave, c'est important pour la vie humaine. Ah bon ? Ah oui, mais je pensais que c'est seulement de regarder des films pornographiques qui étaient un péché mortel. Non, vous pouvez aussi, par une moquerie, être profondément malicieux. Sans compter que quand vous avez 15-18 ans et que vous avez des hormones jusqu'aux oreilles, vous avez des circonstances atténuantes d'être curieux comme un petit toutou à regarder l'acte sexuel chez les autres. Voyez. Enfin, à 40 ans, ça commence à être de la, si vous voulez, un retard d'adolescent. Mais en même temps, vous avez une puissance actuellement de la pornographie qui fait que vous savez que la sexualité, enfin vous savez, de nos jours, justement, il y a un certain niveau d'ignorance. Quoique là, le fait quand même de l'impudicité, du manque de pudeur, on sent que c'est quelque chose qui est désordonné. Vous voyez ? Ça peut vous faire perdre la candidature à une municipalité. Vous voyez ? Eh bien, encore de nos jours, encore dans 2020. Mais le fait même que vous ayez la pleine advertance, la conception dans votre intelligence claire et nette que la sexualité ne s'épanouit que dans un amour promis, dans le mariage, avec une promesse solennelle, sociale et publique, d'être ensemble et d'user de cette sexualité animale dans un don spirituel de vie et d'ouverture à la vie, ce qui fait que il n'y a de sexualité vraie et épanouie que dans le mariage. Et encore, dans le mariage, vous pouvez avoir des difficultés, vous pouvez avoir des maladies, vous allez avoir une certaine impuissance, l'âge qui vient, et vous avez des personnes pour qui la sexualité est très importante dans le mariage, et qui vont être tristes que cette sexualité ne soit pas très heureuse, avec une jouissance plus intense. Mais voyez-vous, nous sommes à ce moment-là dans la vie humaine, dans la vie naturelle, dans la vie instinctive, dans la vie animale, et mais aussi dans la vie d'amour, dans la vie de bonté, de bienveillance, d'union et de promesse. Ce qui fait que toute sexualité en dehors du mariage est désordonnée, est blessée, voyez. Que ça soit une sexualité solitaire, que ça soit une sexualité dans le concubinage, parce qu'on ne s'est rien promis, on peut se quitter du jour au lendemain. Pleine advertance, plein consentement, c'est-à-dire qu'on veut le faire, voyez-vous. On a le désir de faire le mal, on en est conscient et on veut le faire. Vous jouez au football devant une boulangerie et vous avez un ballon dur, pas un ballon en mousse. Une fois, ça tape assez fort sur la vitrine, la boulangère sort et vous dit « mais c'est quand même pénible ». Et vous avez 17 ans, hein, 16-17 ans, vous n'avez pas 14 ans, quoique 14 ans quand même, vous n'avez pas 10 ans. Et vous jouez, et puis à un moment donné, le ballon part et casse la vitrine. Elle est pulvérisée, mais les morceaux de verre vont dans les gâteaux. Il ne suffit pas de demander pardon. Il faut réparer, il faut payer la vitrine, il faut payer les gâteaux. Et puis, vous avez péché, c'est-à-dire que ce n'est pas, sur un stade, et vous avez quelqu'un qui a une force de frappe absolument hallucinante, et qui fait un tir tendu fulgurant dans la lucarne, et en fait, ça passe au-dessus. Et comme vous êtes dans un petit terrain de foot de province, vous avez une rue commerçante pas très loin, et le ballon, bam, il pète la vitrine de la boulangère. Et là, vous n'avez pas péché. Vous étiez sur un terrain de foot, vous tiriez dans pour le... Voyez-vous ? Donc, quand des personnes, parfois, regrettent des fautes ou demandent pardon alors qu'elles ne savaient pas du tout, qu'elles étaient totalement dans l'ignorance, c'est du scrupule. Il y a un mal matériel qui a été fait, mais on ne l'a pas fait exprès. Voyez-vous ? Une personne qui s'excuse parce que... Vous faites le plein avec du diesel au lieu de faire de l'essence dans une voiture que vous avez empruntée à un ami. Il y a une certaine faute du fait que vous auriez dû être particulièrement prudent parce que ça coûte environ 100 euros hein, de vidanger, de tout ça. Mais si vous voulez, si c'est la pompe, il y a eu une erreur dans la pompe. Il y a du diesel au lieu de l'essence. Vous n'avez pas. Alors vous allez quand même vous excuser auprès de votre ami parce que vous avez mis du diesel pour une voiture essence. Mais c'était marqué essence. Il y avait une erreur d'étiquette, par exemple. Et il n'y a pas de péché, il n'y a pas de faute lorsqu'il n'y a pas d'advertance, c'est-à-dire que l'intelligence ne voit pas la chose à faire et que la volonté n'est pas, pleine et entière, dans une chose à faire mauvaise, consciente et voulue. Eh bien, Dieu le sait, tout ça. Mais il nous a créés intelligents. Et nous avons une vraie vie morale pendant toute notre vie. Le but d'une nature humaine, c'est de faire le bien. Hein ? Toujours le même exemple. Les mouches ont été faites pour nourrir les oiseaux, les grenouilles et tous leurs prédateurs dans une chaîne alimentaire. Mais l'être humain, lui, sa particularité, c'est de discerner entre le vrai et le faux, le bien et le mal, et s'épanouir en choisissant le vrai, le bien et la source du bien, en rencontrant Dieu. Si c'est notre nature, on a été fait pour ça. On ne peut pas s'empêcher de le vouloir d'une manière ou d'une autre. Et dès qu'on ne le veut pas, c'est le plus grand péché, parce que c'est contre nature. Notre nature, elle est faite pour connaître et aimer. Je vous le répéterai 1000 fois, mais c'est aussi simple que ça. Connaître et aimer, connaître et aimer. Et deuxième étape, c'est aimer et être aimé, aimer et être aimé, être aimé et aimer. Mais les deux. Ce qui fait que si vous voulez seulement être aimé et jamais aimer, et ben vous péchez. Qu'est-ce que c'est le péché ? C'est ne pas atteindre le but. C'est Peccatum, c'est tomber. Vous voyez? Chuter. Et donc, les scrupuleux, eux, voient des chutes volontaires partout. Et ceux qui ne sont pas scrupuleux, bah, ils disent, oh, ça ne fait pas de mal tout ce que je fais. Voyez-vous? Vous avez une personne qui, dès l'âge de 3 ans, a été entraînée à voler. Sur des personnages avec des grelots, tout ça, enfin, 4 ans, 5 ans, et à 6-7 ans, il est devenu un expert dans le vol, dans le métro. Il vous prend un truc, mais vous n'en apercevez même pas. Il devrait être magicien, prestidigitateur. Mais, si vous voulez, pour lui, c'est un jeu à 5-6 ans. Mais, avec l'âge, il va voir les gens te contrarier. Il va voir les gens tristes d'avoir perdu quelque chose. Il va se rendre compte que c'est pas bon de voler. Vous avez comme ça une personne qui était dans le métro, c'est, je l'ai vécu. Et on lui avait volé son portable. Elle hurlait. Son agenda, ses adresses, ses des applications, tout ça, c'était terrible pour elle. Hurlait de tristesse. Et puis elle voit un monsieur qui est assis, et elle, qui lui semble un peu patibulaire, ou je ne sais pas quoi, enfin bon. Il dit, c'est vous qui m'avez pris, mais rendez-le-moi. C'est vous qui m'avez pris, mais rendez-le-moi, s'il vous plaît. Et le monsieur était là, mais madame, c'est pas moi. Et là, il y avait deux personnes, mais de 40-50 ans, hein, devant moi, devant la porte, qui regardaient en l'air. Et au bout d'un certain temps, ils étaient quand même gênés des cris de la personne. Et entre les deux, le portable tombe. Mais là où ils ont pris un risque, c'est-à-dire que moi j'étais là, et ils ont fait tomber entre deux. Et quand j'ai vu le portable entre les deux, et eux qui continuaient à regarder en l'air, je me suis dit, je ne vais pas leur dire, messieurs les voleurs, prenez le portable par terre et donnez-lui. Et donc j'ai pris le portable et je l'ai montré à la dame et lui ai dit, serait-ce le vôtre? Et en laissant les deux voleurs à leur destinée. Et donc la dame a pris le portable. Là, le métro s'arrête, les portes s'ouvrent et de nulle part, ah, vraiment de nulle part, hein, deux policiers sortent et font une clé de bras aux deux gars. Partent sur le quai et ils vont dire à la dame, suivez-nous. Ils m'ont rien dit, le métro, je n'ai pas demandé mon reste, hein, voilà. Ils ont dû suffisamment constater auparavant. Voilà. Alors pourquoi je vous dis ça? Mais ils avaient 40-50 ans. Vous ne croyez pas qu'ils ne connaissent pas le 7e commandement à cet âge-là? Ce sont des petits de 5-7 ans qui jouent à voler. Eh bien, donc, pour nous, ce soir, le péché, c'est d'être face à Dieu et de lui demander ce qui est vrai ou faux, ce qui est bon ou mauvais, et sa réaction en tant que créateur. À quel moment c'est grave? À quel moment comment peut-on réparer? Et qu'est-ce qu'on doit faire vis-à-vis des autres? Est-ce qu'il y a des péchés contre nous-mêmes? Est-ce qu'on doit pardonner des choses? Quand les apôtres demandent à Jésus comment prier, le pardon est fait, 20% de la prière à Dieu, à nos débiteurs. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Mais au début, c'est une louange. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Vous voyez, donc c'est une louange et une action de grâce, le début du Notre Père, à Dieu dans son origine éternelle. Jésus est le Verbe et la parole éternelle du Père. Et quand on prie, on parle au Père, et aussi on parle à Jésus, on peut parler à l'Esprit Saint, à l'amour du Père et du Fils, ce qui est plus difficile. Alors, comment comprendre cette relation qu'on a avec Dieu par rapport à notre liberté, par rapport à notre intelligence, par rapport à notre volonté et notre liberté? Eh bien, Jésus va nous expliquer qu'est-ce que veut son Père. C'est quand même pas mal d'avoir une explication par Dieu lui-même. C'est original. On devrait, comment dire, s'y intéresser. Alors, je vous parlerai dans un premier temps des 8 paraboles qui se trouvent dans l'évangile de Saint-Luc. L'évangile de Saint-Luc, Saint-Luc était un disciple, il n'était pas un apôtre. Il est parmi les 12 apôtres, les 12 premiers évêques. Il est devenu évêque, mais il était d'abord disciple. Et c'est un médecin. Et les médecins, figurez-vous, c'est une véritable vocation lorsque vous êtes un vrai bon médecin. C'est-à-dire que vous avez une empathie, vous voulez pas seulement regarder un cas clinique, voyez-vous, mais vous intéressez à ce que la personne vit dans sa maladie, dans sa tristesse, dans sa détresse, ou simplement dans de l'aide à apporter pour un petit bobo. Et donc, par providence, Saint Luc va donner des paraboles qui ne sont pas forcément chez Saint Matthieu et Saint Marc, et qui vont être plus portées sur le péché et le pardon du péché. Mais pas forcément dans le sens, comment dire, où on l'attend parfois. Première parabole, c'est les deux débiteurs du créancier. Celui à qui on pardonne beaucoup montre beaucoup d'amour. Alors c'est pas, c'est en soi, c'est une parabole vécue, puisque c'est l'acte de Sainte Marie-Madeleine. Je suis de ceux qui considèrent que c'est Sainte Marie-Madeleine. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Les pharisiens, c'était les juifs observants. Hein? C'est vous. Enfin, pour ceux qui vont à la messe tous les dimanches. Je vous invite à aller à la messe tous les dimanches. S'il y a des étrangers parmi nous, n'est-ce pas? Ou des gens étranges parmi nous, qui ne suivent pas les 10 commandements et le troisième commandement. Voilà. Donc, tout cela, c'est bien difficile. Mais c'est très facile pour des cathos pratiquants et les autres sont des pauvres pécheurs misérables qui iront en enfer. Bon. De nos jours, non, c'est pas plus. On a un pharisianisme léger, c'est-à-dire que moi je vais à la messe, mais tout le monde ira au paradis. Disons que lui, c'est un pharisien lourd. En ce temps-là, un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse, hein, une prostituée. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers, et répandait sur eux le parfum. Pourquoi dit-on, la tradition orale dit que c'est Sainte Marie-Madeleine, au début de sa conversion? Ben, tout simplement parce que, à Béthanie, quelques jours avant la mort de notre Seigneur, Sainte Marie-Madeleine prend un flacon de nard. C'est un parfum qui vaut, comment dire, 10 mois de salaire. Au SMIC, ça vous fait actuellement 12 000 euros. C'est pas mal, un flacon à 12 000 euros. Ça doit être un bon parfum. Hein. Sur les Champs-Élysées, je crois qu'il y en a qui vendent comme ça. C'est concocté en Arabie en général. Hein. Ce sont avec des résines. Enfin, voilà. Et donc, Sainte Marie-Madeleine casse le col et verse tout le contenu sur la tête de notre Seigneur. Et vous avez Judas Iscariote, hein, qui a été remplacé par Saint Matthias, que nous fêtons aujourd'hui, qui dit: Oh, on aurait pu dépenser cet argent pour les pauvres, dit-il, lui qui piquait dans la caisse. voyez, qui volait, qui tenait la bourse des apôtres et qui, de temps en temps, d'ailleurs, lorsqu'il sera très déçu par la douceur du Christ qui ne veut pas prendre le pouvoir, mais qui a un pouvoir spirituel universel, il demandera quand même de l'argent pour le trahir, hein. 30 deniers d'argent. Un mois de salaire, hein. 1 200 euros pour un SMIC, pour vendre le Christ. Eh bien là, voyez-vous, c'est le même geste. C'est pour ça qu'on pense que c'est Sainte Marie Madeleine. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, et c'est très logique, hein, si cet homme était prophète, il saurait que cette femme qui le touche, qui est-elle et ce qu'elle est, une pécheresse. C'est logique, hein, si c'est un prophète, le prophète a des grâces particulières pour connaître les choses cachées. Le saint curé d'Ars connaissait les péchés et la vie passée de ses pénitents par l'ange gardien. Mais c'est surnaturel. Quel que soit le moyen par lequel Dieu informe un être humain de pensées ou d'actes passés ou de choses futures, c'est forcément surnaturel. Vous voyez? Et encore, je dis toujours la même chose, hein, si nous avions des transmissions de pensées ou si nous avions des connaissances de l'avenir, je peux vous assurer que l'armée a essayé 1 000 fois de faire des transmissions de pensées, par exemple de sous-marin à sous-marin, plus ou moins proche, de la rue à un immeuble, enfin en se concentrant devant une feuille avec des codes, ça serait plus. Ben non. Voilà. Ou rentrer dans la pensée des autres. Alors ils ont, je sais pas, j'espère qu'ils n'ont pas dépensé beaucoup d'argent. Ils auraient demandé à l'Église catholique, dites non, l'âme humaine ne peut pas sortir de son corps sans un miracle. C'est pas naturel à l'homme. Et en plus, on ne peut pas lire, on ne peut pas entrer dans l'âme des autres. Ah bon, on ne peut pas lire les pensées, pourtant il y a des films de science-fiction. Non, non, ce sont des films. Voilà. Et donc, pour lui, il doit savoir que c'est une pécheresse. Et en effet, il le sait. Jésus prend la parole. Il l'a pensé, hein, ça. Jésus sait ce qu'elle est et ce qu'il pense. Preuve de la divinité du Christ, hein, ici, hein, pas mal. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. Jésus reprit. Un créancier avait deux débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous les deux, lequel des deux l'aimera davantage. Dans cette parabole, vous avez un enseignement fort sur ce que je vous disais en introduction sur la réalité morale, l'intelligence, la volonté, la liberté, c'est que nous ne pouvons pas vraiment réparer nos péchés. La dette que nous avons vis-à-vis de la vérité, de la bonté, de l'amour vis-à-vis de Dieu est irrattrapable. Il ne pouvait pas la rembourser. Et si Dieu nous retenait nos péchés, nous sommes perdus. En justice, il peut nous punir. Il n'y a que lui qui peut nous pardonner. Alors il y en a un qui avait beaucoup péché et un autre qui avait moins péché. Ah oui. Parce que la dette, ici monétaire, signifie la dette morale. Simon répondit, je suppose que c'est celui à qui on a fait grâce de la plus grande dette. Et Jésus lui dit, tu as raison. Il va être beaucoup plus reconnaissant celui qui devait 500 pièces d'argent que celui qui en avait 50. À rendre, et il ne pouvait pas rendre. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Pour un pharisien, c'est pas terrible, hein? Parce que eux, ils faisaient des ablutions sans arrêt, hein? Elle, elle les a mouillées de ses larmes et essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassée. Elle, depuis qu'elle est entrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. L'humilité, hein. Tu n'as pas fait l'onction sur ma tête. On versait du parfum sur la tête de ses hôtes. Et elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis. Ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. D'où la ferveur des convertis. Vous avez des personnes qui reviennent de plus ou moins loin, et quand ils apprennent que Dieu est amour et qu'on leur pardonne, et ils sont là, mes péchés sont pardonnés. Oui. Mais celui qui a été assez régulier depuis son baptême bébé, qui est toujours allé à la messe avec ses parents, et qui n'a pas tué ni père ni mère, et qui n'a pas. Il peut être dans une certaine routine. Mais il y en a qui peuvent être dans une grande sainteté, comme Saint Dominique Savio, hein, qui est allé à la messe tous les dimanches depuis son enfance, et qui est mort à 15 ans comment dire, du coronavirus, hein, de l'époque, hein, d'une pneumonie carabinée, d'infection pulmonaire extrêmement forte. Mais à l'époque, on n'avait pas peur de mourir. Parce que là, vous voyez, à Venise, comme à Milan, la messe est interdite pour pas que, comment dire, on se rassemble et qu'il y en a un qui respire trop fort et qui vous envoie un virus qui vous tuera. Enfin, pour l'instant, c'est étrange, mais la mortalité ne semble pas comme ci ou comme ça. Soyons prudents et ne jetons pas tout de suite la pierre à nos autorités publiques qui appliquent le principe de précaution, si c'est vraiment très grave. Mais voilà donc que, pour Dieu, cette sincérité, elle est très exigeante. Et il dit alors à la femme, officiellement, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Autre grande vérité, il n'y a que Dieu qui pardonne les péchés. Et ces pharisiens et ces juifs savent très bien que on peut demander pardon à Dieu, on a des rites pour demander pardon à Dieu, on offre une vache plutôt qu'un mouton quand on a beaucoup péché, mais c'est Dieu qui pardonne. Il y a un rite, le prêtre prend du sang, vous asperge de sang, il prend de l'eau, c'est plus agréable, il vous asperge d'eau. Mais c'est par ce rite que vous êtes pardonné. Et vous avez dans la piété musulmane un rite dans le pèlerinage à la Mecque qui est la confession. Mais comme ils n'ont pas, c'est la religion dans sa rudesse avec des pertes vis-à-vis, par rapport à la religion juive et à la religion chrétienne, hein, avec des discontinuités, des transformations, mais vous avez des réalités de la religion naturelle dans l'islam, donc ils arrivent et ils lapident Satan, hein, dans le grand tour qu'ils ont comment dire, autour de la Kaaba à la Mecque, donc ils rejettent le mal, voilà. Mais vous avez un détail qu'on connaît très peu, pour les Hadj, pour ceux qui ont fait le pèlerinage de la Mecque, c'est qu'ils vont sur une montagne. Le fait de rester sur cette montagne et de repenser à vos péchés et à votre vie, quand vous quittez cette montagne, vous êtes pardonné de vos péchés. Oui. Mais ce n'est pas idiot. C'est un examen de conscience qu'ils font et ils demandent pardon à Dieu. Vu qu'ils n'ont pas on leur a arraché l'incarnation, on leur a arraché la crucifixion du Messie et de l'agneau de Dieu. Eh bien, il leur reste la prière de regret du péché, comme d'autres dans d'autres religions d'ailleurs. Et c'est Dieu qui pardonne. Vous voyez, les protestants ont remis en cause la confession, ont remis en cause la présence réelle et le caractère du fait que le vendredi saint est rendu présent au moment de la double consécration, vous voyez, du sang et du corps, à nos yeux, Jésus est vivant, c'est le vendredi saint qui est rendu présent à nos yeux à chaque messe, eh bien Luther, lui, disait « Non, mes péchés, ils sont remis par la miséricorde de Dieu, mais ils ne sont pas remis par cette messe-là. Et ils ne sont pas remis par cette confession-là. Le prêtre n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors vous avez dans des films protestants, américains, assez comiques, ils sont là, ils forment une croix sur un mur et ils demandent pardon à Dieu. Ils ne vont pas demander à ce qu'un prêtre vienne. Mais sachez que si un prêtre ne peut pas venir, vous pouvez vous-même faire une prière très intense sur ce que votre conscience vous reproche face à Dieu. Si un prêtre ne peut pas être là, vous faites une confession directement. Oui. Et donc, c'est du réel, hein, comme ça. Ça sera peut-être coupé au montage, par contre, hein, Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors, Luther a-t-il raison? C'est la foi qui sauve, c'est pas les œuvres, c'est pas l'acte de regret, l'acte de contrition. Ben, les deux, mon capitaine. Quand le Christ, pour le coup, il n'a pas fait un cours de catéchisme avec le magistère ordinaire universel de 2000 ans. Il n'a pas dit « Va, ta foi t'a sauvé parce que tu n'as pas fait obstacle à la grâce et que tu es dans le regret sincère et tu prends la résolution de ne plus pécher à l'avenir. » Vous voyez ? On aurait été étonné de lire ça quand même dans l'Évangile. Vous voyez ? Oh, c'est de la théologie fine à l'époque, hein. Mais notre Seigneur en donne l'essentiel. C'est le fait de croire que Dieu veut nous pardonner et que nous voulons cesser de pécher. La compassion d'un étranger, le bon samaritain. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit à Jésus à l'épreuve en disant « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » Un scribe, hein, un docteur de la loi, hein, donc ils connaissent la Sainte Écriture par cœur. Hein. L'autre répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. » C'est dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament. Jésus lui dit, tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, puisqu'il a voulu prendre au piège, donc il continue, malicieux. Et qui est mon prochain? Est-ce que je dois être gentil avec les Romains qui nous volent? Avec les publicains qui sont des collaborateurs? Qu'est-ce que tu vas répondre? Il répond par une parabole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Ce sont les démons et notre propre malice qui nous tue, qui nous frappe. Ici, la parabole, le péché, ce n'est plus une dette financière, c'est des blessures, des coups. Il est à moitié mort. Hein. La nature humaine est blessée par le péché et par les tentations et par la pente vers le péché. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. Je vais devoir m'occuper de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a peut-être bien mérité. C'est un pécheur, voilà. Et moi, je suis un prêtre, je suis un saint. Mais c'est Jésus qui donne cet exemple. Hein. C'est un descendant de la famille d'Aaron, de la tribu de Lévi. Un prêtre. De même, un lévite, donc un séminariste, un aidant des prêtres. Plus qu'un pharisien. Et leur vie tourne autour du culte, même s'ils ne sont pas de la famille sacerdotale d'Aaron. Un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté aussi. Vous voyez, c'est comme lorsque vous voyez quelqu'un qui mendie, dit « celui-là, vous traversez, changez de trottoir. » Alors vous voyez un peu, si vous avez de l'argent, si vous n'avez pas d'argent, vous allez avoir honte, ou au contraire, c'est pratique, vous dites « j'ai vraiment rien, mon cher ami. » Ou c'est quelqu'un que vous avez vu arriver, qui a été déposé par une Mercedes ou par une voiture le matin, qui est repris le soir, qui gardera même pas le quart de la moitié de l'argent que vous allez lui donner, alors ça vous vous dites que ce n'est pas la peine de lui donner, vous vous apprêtez à prendre un sandwich, tout ça, enfin flûte, à un moment donné, c'est trop compliqué, aujourd'hui je change de trottoir. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, si vous vous souvenez de la première partie de l'année, les Samaritains, c'est une partie du peuple juif qui était au nord, quand il y a eu la sécession entre le royaume du nord et la capitale religieuse, Jérusalem, avec le temple, avec l'arche d'alliance. Le roi du Nord a fait le dieu Apis à nouveau, comme au pied du mont Sinaï, pendant que Moïse recevait les 10 commandements. Et donc les Samaritains, c'est une religion mélangée, qui a fini par se purifier par rapport au dieu Apis, mais qui était en plus avec des étrangers païens, avec un mélange dans le nord, d'autant plus qu'il y a eu l'invasion assyrienne dès les années 700, et ils ont été totalement mélangés. Donc les juifs méprisaient les samaritains, mi-juifs, mi-païens. Pourtant, les samaritains finissaient par croire que Jacob était leur ancêtre, qu'ils attendaient le Messie. Comme la Samaritaine le dira à Jésus. Et Jésus lui dira, c'est moi qui te parle. Et les Samaritains qui viendront écouter Jésus diront à la fin, ce n'est pas en raison de ton témoignage que nous croyons qu'il est le Messie, mais parce que nous l'avons entendu et nous croyons qu'il est le Sauveur du monde. Vous vous rendez compte un peu, donc dans la tradition même samaritaine, il y avait un vrai, vrai Messie, un Sauveur du monde. Un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. C'est Dieu qui nous verse de l'huile et du vin. Et son sang. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent. Alors, vous avez plein d'allégories, hein, l'amour de Dieu et du prochain. Hein, les 2 pièces que Jésus fait sortir d'un poisson pour payer l'impôt de Pierre, de lui et de Pierre. Et les donna à l'aubergiste en lui disant, « Prends soin de lui, tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » L'auberge, c'est l'Église. L'aubergiste, c'est le nouveau sacerdoce qui s'occupe des âmes. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Oh. Le docteur de la loi répondit, mais celui a arraché la gueule de dire le samaritain, donc il a dit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Ça s'appelle une périphrase, pour pas dire samaritain. Vous voyez, Jésus lui dit, va. Et toi aussi, fais de même. Sécher, comme diraient les jeunes. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus. Publicains, c'est ceux qui levaient les impôts pour les Romains. Pour l'écouter, les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. On avait Luc 7, Luc 10, et là c'est Luc 15. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? C'est la providence divine, hein, que les 99 brebis aient l'instinct grégaire et qu'il n'y en ait pas une qui ait envie de partir pendant que le berger va chercher la centième. C'est une bonne organisation de l'Église, hein. On n'est plus en 2000, on n'est pas en 2020 encore, hein. Actuellement, c'est... Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules. C'est le bon pasteur, oui, qui est représenté très souvent. Et dès les premiers siècles de l'Église, dans les peintures des tombes chrétiennes et des monuments chrétiens. Tout joyeux et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis. Alors, voilà, il explique lui-même cette parabole. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. C'est joli, ça. C'est joli. Dieu se réjouit qu'un pécheur se convertisse, et les anges avec lui, et ceux qui sont déjà morts, les saints et les saintes avec lui. C'est une vérité, vous voyez, c'est dans l'Évangile. C'est pas seulement dans le catéchisme, oui, mais l'Église catholique, elle s'est éloignée de la pureté originelle, elle a compliqué avec sa théologie. Non, c'est là. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent, ah, décidément, hein, et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Une journée de salaire, hein, quand même, hein, une pièce d'argent. Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Et là, il le précise, hein, dans le ciel avant, dans les anges de Dieu. Ce sont nos amis, les anges. Hein. Faites pas de spiritisme, hein, n'invoquez pas Uriel. Faites pas de la cabale à la noix, ça sert à rien. Ce sont les démons qui vous répondent. Et toujours pour le même exemple, pour ceux qui sont là pour la cinquième année, les chiromanciennes, les vraies sorcières et les vrais sorciers, je ne parle pas des escrocs, hein, qui font de la psychologie en vous regardant et en vous écoutant, hein, mais ceux qui invoquent vraiment les esprits, ben, ils ne connaissent pas le futur. Quand ils invoquent des morts, ça peut être pas le mort d'ailleurs, ça peut être un démon qui prend la forme du mort et toute la vie ancienne du mort qu'il connaît et qui peut complètement vous abuser. En ce qui concerne le futur, elles sont infoutues de jouer à Winamax ou à Betclic en sachant quelle partie du stade va s'émouvoir ou quelle ville va s'émouvoir. Elles sentent pas quand même... Hein, Marseille exulté pendant que Paris est triste. Enfin, non. Ouais. Donc, mais le futur le plus simple, je crois que ça doit être le pari le moins qu'il rapporte le moins. Qui gagne? Ensuite, si vous pariez nombre de buts, hop, 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 hop. Ouais. Mais vous avez jamais vu un sorcier ou une sorcière jouer au tiercé? Ouais. Pourquoi? Elle ne connaît pas l'avenir. Eh bien là, voyez-vous, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. La fonction des anges, c'est pas que vous les invoquiez pour qu'ils vous apparaissent. La fonction des anges, c'est de vous pousser à faire le bien et de se réjouir quand vous le faites. Voyez, vous avez le pentacle kabbalistique et qui a donné le pentacle satanique, mais initialement le pentacle, c'est un objet de la kabbale et les juifs pieux n'aiment pas la kabbale. Les juifs honnêtes, tranquilles, vous, le Zohar, la Kabbale, les rabbins qui sont pieux, qui cherchent la charité, tout ça, ils ne s'intéressent pas beaucoup au Zohar et à la Kabbale, hein, je vous l'assure. Eh bien, voyez-vous, vous avez une invocation pour Michel, une invocation pour Gabriel, une invocation pour Raphaël, une invocation pour Uriel. Enfin, on ne sait pas trop d'où ça vient, si ça vient de la Babylonie ou de l'Égypte, mais tout ça, c'est vraiment 20. Ah, il y a une petite coquetterie chez les catholiques de savoir le petit nom de leur ange gardien. C'est pas nécessaire. Si vous le savez, si vous avez l'impression de le savoir, c'est pas un péché, hein. Mais n'oubliez pas que c'est pas nécessaire. En ce temps-là, Jésus dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part de la fortune qui me revient. Et le père leur partagea ses biens. Dieu nous donne vie. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit dans un pays lointain, où il dilapida sa fortune et menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Voyez, krach monétaire, coronavirus, là ils sont. Là, tout l'argent que j'avais, assurance vie en fonds euros, plus rien, enfin voilà. J'ai travaillé pour rien. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il est censé être juif, hein. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père. Et vous voyez, Jésus aime bien quand même, hein, dire, Moi je suis votre frère, Dieu est votre père. Arrêtez d'avoir peur de Dieu. Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Alors, est-ce que c'est une pure conversion ou simplement parce qu'il a faim? Hein? Mais le début d'une conversion peut être la peur, peut être la pauvreté, hein, ou la maladie. Eh bien, le père courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le. Et mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Le veau gras, c'est Jésus. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était aux champs. Ça peut être le vieux peuple juif qui voit les païens arriver au salut. Mais ça peut être aussi la justice divine. Ça peut être aussi Jésus qui fait effort pour nous sauver. Parce qu'à certains moments, Jésus dit, hein, quand, jusqu'à quand vous supporterai-je, hein? Jésus, à un moment donné, et puis il est triste jusqu'à la mort. Il en a assez. Et le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, donc le fils aîné était au champ. Et puis il voit qu'on accueille, comment dire, son frère qui fait n'importe quoi dans sa vie, n'est-ce pas? Et voilà. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Donc ça, c'est lorsqu'on ne comprend pas la grandeur et la profondeur de la miséricorde de Dieu. Alors qu'on est juste. Enfin, on est tous pécheurs, donc il faut faire attention. Il refusait. Alors le fils aîné se mit en colère et refusait d'entrer. Il peut se damner, hein, par la jalousie de voir un pécheur pardonné. C'est quand même ballot pour quelqu'un qui est en état de grâce de tomber dans le péché mortel et de refuser Dieu parce que Dieu pardonne à un pécheur. Alors Dieu est très gentil avec lui, hein. Il lui explique, hein, c'est une explication de texte, hein. Son père sortit le supplier. Quand Dieu se fait tout petit, il vous demande, mais comprenez bien ma volonté, hein, s'il vous plaît. Hein, attention, hein, Dieu est Dieu, hein, donc s'il est tout gentil comme ça, c'est qu'il a une carte derrière lui, hein, c'est une grosse massue. C'est-à-dire que si vous faites pas plier, un moment, il se relève et dit, ah ça, ça va. Vous voyez, c'est celui qui est dans la salle des noces et qui n'a pas l'habit. Dieu lui dit, mon ami, pourquoi es-tu rentré sans ton habit? Mais il aurait dit, je vous demande pardon, est-ce que vous pourriez m'en donner un? Il lui dit, mon ami. Donc il aurait fait venir un habit pour lui. Jésus, quand Judas le trahit, il lui dit, mon ami. C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme. Donc jusqu'au dernier moment, Jésus lui tend la perche. Mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, que je vais à la messe tous les dimanches, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Oui. Ma mère est morte d'un cancer, mon père est mort d'une crise cardiaque, j'ai été ruiné, j'ai été au chômage, alors que j'ai jamais péché. » Mais oui, mais t'es catholique, hein? Malade et pauvre, Dieu me bénit. Voyez, hein, le juif et le protestant, riche et en bonne santé, Dieu me bénit. Mais oui, mais à un moment donné, il faut être face à la volonté divine, la crucifixion, la réalité de la souffrance. Et donc, mais à terme, toutes ces querelles entre chrétiens vont être pulvérisées par les nécessités à venir. Et les disputes entre orthodoxes, protestants, catholiques, tout ça vont être réduites à néant parce que on se rassemblera autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez un monde qui devient complètement antéchristique, oui, où la religion de l'amour consistera à divorcer, piluler, avorter, euthanasier et suivre sa débauche, quoi. À un moment donné, ceux qui connaissent Jésus-Christ vont dire, mais c'est vraiment ce que Jésus-Christ a voulu? Non. Non, parce que on regrette ses péchés, on change de vie. C'est Michel Aupetit qui dit, mais une procréation médicalement assistée, c'est combien d'enfants qui sont tués dans des éprouvettes? Et puis quand c'est deux femmes ou deux hommes, mais quel égoïsme! Il le dit, hein, le caprice, hein, il est sévère, hein, mais il dit, c'est un péché. Alors que vous avez même des prêtres, voire des évêques, et des couples homosexuels qui vont dire, mais vous êtes méchants à vouloir nous culpabiliser. On veut un enfant. Ben, oui, mais un enfant a droit à son père et à sa mère. Vous voyez, c'est allé jusqu'à la Conférence épiscopale de France qui a, dans sa commission canonique, qui a fait un registre avec la colonne principale par autorité parentale 1, autorité parentale 2. Mais ça a été refusé par des évêques de France, hein, qui ont dit, ah non, non, père, mère. Et si on ne connaît pas la mère, mère inconnue, et en marge, on dit adoption plénière par monsieur un tel et monsieur un tel. Mais on doit la vérité à une personne. Si tant est qu'ils viennent nous provoquer en voulant, baptiser leur enfant, mais à ce moment-là, c'est tout à fait possible, mais on leur dit, il faut que vous engagiez dans la foi catholique et qu'un terme, vous disiez à votre enfant que votre mode de vie est contraire à l'enseignement du Jésus et du christianisme et même de la vie biblique. Eh bien, là, il refuse cette miséricorde. Quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, Tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit. Toi, mon enfant. Écoutez, hein, parce que c'est lourd, hein, c'est Dieu qui parle, hein, c'est Jésus qui parle. Hein. Tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Pas rien hein, quand on suit la volonté de Dieu. Quand on est en état de grâce. Dieu ne lui dit pas qu'il a tort d'avoir été observant pendant toutes ces années. Il fallait festoyer et se réjouir. Car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Qu'est-ce que dit Dieu du péché? C'est la mort. C'est pas « Oh, qui suis-je pour juger ?» Dieu dit « Vous êtes un cadavre. Mon cher fils, tu étais mort. » Tu m'as oublié, tu m'as rejeté. Oh, c'est pas le fait qu'il ait été avec des prostituées. Hein. C'est le fait qu'il a été malicieux. Vous avez un soldat qui est là, depuis la troisième année de campagne, et qui est même marié, vous voyez, et qui est là, il y a un bordel à soldats, et il va avec une prostituée. Il n'a pas tué père et mère, il fait un péché grave en soi. Contre lui-même, contre son mariage. Mais où est la malice de l'enfant prodigue? Prodigue de ses biens, hein, c'est pas... C'est l'enfant prodigue, c'est l'enfant qui gâche. Vous voyez? Eh bien, c'est qu'il se soit détourné de son père. Vous avez une chanson qui est un peu bizarre, de Francis Cabrel. Hein? Il a quitté la maison de son père et la terre de ses aïeux. Il a voulu trouver le bonheur ailleurs. Ça ressemble à la parabole de l'enfant prodigue. Et en fait, il ne trouve pas le bonheur. Mais par contre, ça se termine de manière assez païenne, enfin assez bizarre, puisqu'il revient sur la maison, à la maison de son père et sur la terre de ses aïeux, et il s'est brûlé les yeux. Bon, alors, vous voyez, la fin, la chute n'est pas excellente. Mais la chanson, avec une mélodie toute particulière, c'est « Il cherche partout le bonheur, mais il ne le trouve pas, en dehors de la vérité. Oui. » Alors, maintenant... La parabole qui tue.